This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de camions du futur, de balances du futur qui sont aussi des étagères, de Google qui change les choses au niveau de la pub et de plein d'autres choses. On a plein de sujets intéressants dont on va vous parler et pour faire tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Gaël qui nous rejoint comme presque tous les mois. Comment ça va Gaël ?
Bonjour Patrick, écoute, très bien et toi ?
Bah écoute, je suis en forme, je suis prêt à parler de polygones transformés en camion, en semi-remorque, en pick-up.
C'était ton dessin quand t'avais 6 ans, non ? C'est ça ?
Ouais,
c'était
à peu près.
De ta voiture.
À peu près, c'est ça. Donc tu vois, Elon Musk parle à l'enfant qui est en nous, donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. J'aimerais quand même remercier les patriotes qui soutiennent cette émission et en particulier aujourd'hui Peter Hilton, Sybille Demg, Eric EMK, Reworks, Jérémy, Julien Maurice, Thierry Esperac et Eduardo Fuentes. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/RDV Tech. L'émission est produite grâce à leur soutien. Bon, écoute, je te propose qu'on se lance immédiatement dans l'aventure tech de la semaine, puisque on a eu droit à la présentation du Cybertruck, le Cybertruck de Tesla, qui était un véhicule très attendu. Pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Tesla, toutes leurs annonces sont toujours très attendues parce qu'il y a un petit côté spectacle, fantasme dans ce qu'ils montrent. Mais là, en particulier, parce que le pick-up est un véhicule qui est hyper populaire aux États-Unis en particulier. Et c'est un véhicule qu'il était, jusqu'à il y a quelques années seulement, très difficile d'imaginer en véhicule électrique. Avant, à vrai dire, pour tous les problèmes que peut poser Tesla, avant que Elon Musk ne décide de faire des véhicules électriques quelque chose de réaliste, tout simplement, les pick-up, encore plus que les voitures régulières classiques, étaient quelque chose qui n'était pas vraiment imaginable en véhicule électrique. Et donc, on attendait de voir ce qu'il allait faire. J'imagine que vous avez vu passer les images sur Twitter et ailleurs et que vous avez été un petit peu interpellé, intrigué et surpris. C'est un véhicule qui a des faces angulaires, on parle de polygones. Si vous imaginez un jeu des années 90, début 90 en 3D, les tout débuts de la 3D où on devait faire une voiture avec 12 polygones, c'est un peu ça, avec 12 faces très plates. C'est un peu ça. Gaël, est-ce que ça, c'est un truc qui t'a parlé ? Est-ce que l'ambiance K2000, c'était quelque chose qui t'a séduit ou c'était plutôt...
Écoute, à la base, moi, on me dit pick-up électrique et j'ai tout ce que j'aime. Le pick-up, je rêve d'un pick-up. Je me suis dit électrique, formidable, ça va aller avec le côté écolo qui s'éveille en moi. Et puis, en voyant les premières images, le coup de com' est réussi. On ne fait que de parler de ça. Donc, après, ça, oui. Je t'avoue que je me vois difficilement avec ça sur les routes. Mais le côté pour les anciens qui aimaient l'inspecteur gadget, il y a un petit côté, c'est pareil, hein, c'est un polygone, hein, la voiture d'inspecteur gadget.
C'est vraiment un concept car, quoi. Sauf qu'il va être effectivement commercialisé dans on ne sait pas combien de temps exactement, quelques mois, 1 ou 2 ans peut-être. En tout cas, je ne sais plus quelle date ils ont promis, mais il va effectivement être commercialisé et on est dans un esprit de concept car, quoi, carrément. Moi, j'ai du mal à imaginer ce truc dans la route, quoi. Ça a l'air d'être un véhicule électrique, un véhicule, comment dire, un véhicule militaire d'un film de science-fiction.
Je pense que ça s'adresse quand même pas mal au marché américain. Hein.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais moi, quand je pense aux gens... En fait, quand on pense à pick-up truck, c'est un véhicule utilitaire pour des gens qui ont besoin de travailler avec, tu vois. Et je ne sais pas si ça va vraiment correspondre à ce genre d'utilisation, vu le look bizarre et mine de rien, je ne sais pas quelle est la charge utile, enfin, la superficie utile sur la partie arrière où on peut charger de la charge. Mais ça m'a l'air un petit peu plus petit qu'un pick-up classique. Et puis surtout, le look, est-ce que les gens vont vouloir aller chez les clients pour porter leur matériel de construction avec ce truc ? Bon, après, il faut que ça soit fonctionnel. Et dans les caractéristiques techniques, il est quand même relativement, relativement intéressant. Il y a trois options, 40, 50 et 60 000 dollars, qui font respectivement 480 et 800 km d'autonomie. Il y a plus de moteurs dans les versions plus chères. Et on passe également de 0 à 100 en 6,5, 4,5 et 3 secondes. Le truc va plus vite qu'une Porsche, comme on le voit souvent avec ce type de véhicule. Le plus gros va à 210 km/h. Il a une charge utile de 1500, enfin le plus important c'est la capacité de remorquage. Il a 1500 kilos de charge utile et remorquage, le plus gros va jusqu'à 6 tonnes, 6,3 tonnes. Donc c'est vraiment, au niveau des caractéristiques, j'ai l'impression, des trucs sérieux, je suis pas un spécialiste du pick-up, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose. Finalement, est-ce que le look qui est bizarre, est-ce qu'on s'en fout pas finalement s'il fait ce qu'il faut au niveau du boulot, quoi?
Surtout que dans le compartiment arrière, tu peux mettre un barbecue intégré. Donc, je ne sais pas si tu as vu l'image.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est utile.
J'ai l'impression que c'est un peu ça le truc. C'est un véhicule qui... Les gens qui veulent vraiment un pick-up truck, ils ne vont pas prendre un Tesla. Ça, c'est plus pour les gens... Comme les gens qui achètent des 4x4 pour rouler en ville, tu sais. Genre, c'est les choses qui sont plus grosses, plus confortables. Mais tu n'achètes pas un 4x4 quand tu es en ville pour aller... Enfin, personne n'utilise des 4x4 comme des 4x4. Moi, oui, dans ma campagne, dans ma campagne, c'est utile d'avoir un 4x4 parce qu'on traverse des routes de terre, mais c'est tout. Et la plupart des gens en ville, ils s'en foutent. C'est un petit peu ce même genre de...
C'est la même cible. C'est la même cible. Tu peux le dire, je pense, effectivement.
Ouais, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas, du coup, quand on voit des gens avec des 4x4 ou des pick-up, et surtout aux États-Unis où ils en ont beaucoup, leurs grosses bagnoles, machin, on se dit toujours, mais ce truc, il utilise énormément d'essence et on le regarde avec un œil un petit peu aiguisé. Là, pourquoi pas ? C'est à la fois le fantasme de la grosse bagnole, mais véhicule électrique, donc... Bon, il y a des questions qui se posent avec les véhicules électriques, mais c'est quand même beaucoup plus, sur le long terme, beaucoup plus vert que les véhicules à essence. Bon, pourquoi pas ?
Écoute, il y a le quad, le cyber quad qui va à l'arrière, qui a l'air pas mal aussi.
Ouais, c'est un quad effectivement électrique qu'ils ont fait aussi. Je sais pas là non plus si ça sera vraiment quelque chose d'utile, mais peut-être plus que le Cybertruck. J'ai l'impression que c'est plus un coup de com, le Cybertruck.
Mais oui. La preuve, regarde, tout le monde en parle. Les précommandes sont très bonnes, mais il faut dire qu'à 100 euros, la précommande annulable, évidemment, ça vaut le coup de précommander. Et effectivement, il y a
attends, c'est que 100 euros la précommande ? Non, c'est plus que ça, c'est pas possible.
Non, écoute, c'était écrit.
Ah oui, d'accord, c'est 100 euros, effectivement, d'accord. Bon, 100 euros, ça va de pouvoir... Peut-être qu'ils sentaient le truc, ils se disaient, on voulait avoir beaucoup de précommandes, et il y en a eu beaucoup, effectivement, il y en a eu genre 20 000, quelque chose comme ça.
Non, il y en a eu 200 000.
200 000, pardon, oui, 200 000. Bon, à 100 euros, effectivement, on peut précommander, quoi.
Ah, 200 000 personnes qui ont commandé 100 euros, ça fait déjà une belle petite somme, sympathique. Enfin, bon, au niveau de Tesla, c'est pas grand-chose, mais...
C'est sûr.
Non, ce qui est intéressant, c'est la conf. Du coup, moi, j'ai bien rigolé sur la conférence. Je ne sais pas si tu as vu les images quand ils montrent que les vitres sont incassables avec une boule de pétanque.
Oui, oui.
Et qui se casse.
Alors ça, c'est le truc. Je vais juste dire, la configuration, la production de différents modèles commencera à différents moments. Pour la version 3 moteurs, donc la version la plus grosse, la plus rapide, etc., ça ne commencera que fin 2022. Donc on n'est vraiment pas, pour cette version, on n'est vraiment pas pour tout de suite. Et de toute façon, on ne peut pas configurer le véhicule avant fin 2021. Donc on est à 2 ans avant vraiment la production sérieuse. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Mais oui, ce passage où ils ont essayé de casser la vitre avec la grosse boule de pétanque et ils disent « Allez, on essaye !» Et paf, ils mettent la boule en acier là et ça pète la vitre. Et ils recommencent et ça pète l'autre vitre. Et après, il a dû finir la conférence, Elon Musk, avec les deux vitres cassées sur le véhicule pendant toute la conférence. Mais ça participe à la mystique d'Elon Musk, quoi. C'était presque...
La légende. Tu te demandes, c'est presque voulu, quoi.
Ouais, presque. Bon, je pense pas que ça soit voulu, mais ça fait partie du personnage, presque. Et il en a plaisanté, il en a rigolé pendant le truc. Et alors, selon ses explications après, c'est parce qu'ils avaient donné des coups de marteau dans la porte et que ça avait donc fissuré la base de la vitre. Bon, après, on y croit ou pas, peu importe, à la limite. C'est ça qui est bizarre avec Elon Musk, c'est que quoi qu'il fasse, à moins que ça soit des passages un petit peu bizarres sur Twitter, tout est toujours positif, parce qu'il faut avouer qu'il a, il réalise ses visions de folie, quoi. Encore aujourd'hui, mais...
C'est un grand gamin qui a fait sa voiture, qui a repris son dessin quand il avait 6 ans, qui a fait sa voiture, qui est incassable, bon, qui se casse, mais c'est pas grave, hein, c'est un Lego, ça se refait, et puis voilà. Après, je pense qu'en coulisses, il devait pas être si positif que ça avec ses équipes, mais...
C'est sûr. Et alors, ils ont montré des vidéos de tests qu'ils avaient fait, ils avaient lancé les boules 5 fois sur la vitre et ça cassait pas, etc. Mais bon... C'est à la limite, encore une fois, peu importe. Et le truc qui... La légitimité de Elon Musk vient, malgré l'image un petit peu ternie qu'il a eue avec ses délires sur Twitter, la légitimité vient quand même du fait que ses deux plus gros projets à ce jour, les voitures électriques et le voyage spatial, ont été plus loin que ce que des industries entières avaient réussi à faire en des décennies. Parce que, mine de rien, les voitures électriques, ça fait longtemps qu'on en parle. Et quand Tesla s'est lancé dans l'aventure, ils ont fait avancer les choses à pas de géant. Ils ont poussé aux fesses les autres acteurs de l'industrie. Pareil avec le voyage spatial. On verra ce que donneront les autres projets fous, comme les tubes de transport sous la Terre, etc. Mais... malgré tout, malgré ces présentations fantaisistes et ces véhicules bizarres, on a l'impression que c'est un innovateur qui, comme les bons innovateurs, ne demande pas ce que veut le marché, mais voit ce qui est possible avec la technologie et avance dans sa direction par son inspiration presque, même si je suis sûr qu'il étudie les choses de manière très sérieuse. Mais cet aspect de Elon Musk est quelque chose qui est rare, qu'on retrouve parfois chez d'autres, mais qui est relativement rare, et qui donne un petit peu de... C'est plus que du rêve, c'est pas du rêve, c'est du rêve qui se réalise en fait. Et c'est ça qui est magique avec Musk, je crois. Ouais, je sais. Ouais. Donc voilà, sur le Cybertruck, c'est quelque chose qui va peut-être rouler dans quelques années dans vos villes. Et comme on le disait l'année dernière, il y a une Gigafactory, donc une usine Tesla qui va ouvrir en Allemagne aussi. Donc on risque d'avoir de plus en plus de Tesla dans les villes européennes également. Un autre projet intéressant que je n'attendais pas du tout dans ce domaine, c'est un petit projet. Alors là, on change complètement de d'échelle et d'ambition. C'est un truc d'Amazon. Tu te souviens des Dash Buttons ? Tu sais ce que c'est, les Dash Buttons d'Amazon, Gaëlle ?
Oui, tout à fait. J'ai failli passer à l'acte et en acheter, et finalement, je ne l'ai pas fait.
C'est vrai. Je crois que c'était plutôt une bonne idée. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, les Dash Buttons, c'est des petits boutons connectés à Internet en Wi-Fi qui, quand on appuie dessus, vous commandent un truc. Et l'idée, à la base, c'est un truc qui est sorti il y a quelques années chez Amazon, qu'ils ont annulé maintenant parce que ça ne marchait pas beaucoup, c'était d'avoir, par exemple, un petit bouton pour commander plus de papier toilette. Bon, il faut quand même prévoir un petit peu avant quand on voit qu'il ne nous reste que quelques rouleaux, parce que, évidemment, même si Amazon est très rapide, ça ne livre pas instantanément. Mais l'idée, c'était, bah, si on n'a plus de lessive, ou si on n'a plus de papier toilette, ou si on n'a plus d'autres choses, bah, on clique. Et on a le truc, la commande qui est passée. C'est pour faciliter l'acte d'achat, encore une fois, comme c'est souvent le cas chez Amazon. Et bien là, ils ont repris le concept, mais ils l'ont transformé en quelque chose qui me semble hyper intelligent. C'est la balance qui est en même temps une étagère connectée au Wi-Fi. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez une balance sur laquelle vous posez des fournitures de bureau, par exemple une boîte avec, je ne sais pas moi, des trombones, du scotch, du quoi que ce soit aux fournitures de bureau. C'est plutôt, a priori, prévu pour les bureaux. Mais on peut tout à fait imaginer l'utiliser avec d'autres types d'utilisation. Et donc, ça voit quand le poids arrive à un certain niveau, il faudra sans doute le configurer. Et quand on est suffisamment bas dans la quantité de fourniture qu'il y a, eh ben, ça recommande la fourniture, comme c'est le cas avec quand on appuyait sur le dash button. Ça me paraît, moi, une utilisation hyper maligne du truc, et c'est intéressant au niveau technologique. Je me demande si ça peut effectivement avoir une utilité dans la pratique, parce que, bon, c'est d'électronique qu'il faut configurer en plus un petit peu partout. Mais je me dis que dans certains cas, certaines utilisations, dans certains bureaux surtout, ça peut fonctionner, ou au moins si ça envoie un signal que tel truc est... moins, enfin vous en avez moins, ça peut vous signaler qu'il faut en recommander. Bon, moi je travaille de chez moi, donc j'ai peut-être pas assez d'expérience de vrai bureau. Gaëlle, toi qui es quelqu'un d'un peu plus sérieux, est-ce que c'est un truc qui pourrait être utile, ou c'est quand même
gadget? Alors, dans mon bureau, moins, parce qu'on est quand même sur du numérique, donc on a quand même peu de fournitures. En revanche, l'utilité première que je vois, c'est dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, ils ont beaucoup de matériel, les pansements, les seringues, tout ce matériel-là. En fait, si tu remarques d'ailleurs, ils sont obligés de scanner à chaque fois qu'ils en prennent un maintenant pour donner l'information qu'il va y en avoir de moins en moins. Pour eux, c'est génial.
Ouais, et on pense aux hôpitaux, enfin tu y penses parce que peut-être que ça c'est un truc que tu connais, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui entendent ça et qui disent « Ah ouais, pour mon domaine, ça pourrait être utile ». Bon alors ensuite, c'est encore un truc à configurer, comme je le disais, il faut le connecter au Wi-Fi, il faut le configurer dans l'app machin pour dire quand on arrive à telle quantité de, enfin tel poids, il faut recommander, mais il faut que le poids, genre, parce que si on en prend et qu'on enlève pendant 30 secondes, il faut pas que ça recommande parce que le truc a disparu pendant 30 secondes. Donc peut-être si pendant la nuit, on est à tel poids pendant plus d'une heure, bah, ça veut dire qu'effectivement, on a moins de cette fourniture, etc., etc. Moi, je crois que ça pourrait être utile. La question, c'est est-ce que l'emmerdement en vaut l'utilité ? C'est un truc qui pourrait s'appliquer à beaucoup de choses, d'ailleurs, cette phrase. L'emmerdement en vaut-il l'utilité ?
Le rapport emmerdement-utilité aussi.
C'est ça, ouais.
Après qualité-prix, emmerdement-utilité. je pense que c'est les débuts quand tu auras effectivement ton caisson, ton étagère où tu auras juste à poser tes affaires, comme tu sais quand maintenant tu vas dans certains magasins aux caisses, tu arrives, tu mets tout ce que tu viens d'acheter dedans et finalement ça t'a quoi calculé ton prix et t'as plus qu'à payer. Bah, c'est le même principe, si tu mets tous tes éléments sur cette grande étagère que t'as pas à tout scanner, etc., et c'est pas forcément au poids mais c'est au nombre de choses qui sont là. Enfin, je pense que c'est le début, comme le début des Dash Buttons. À mon avis, le truc en lui-même n'était pas super intéressant, mais on va vers des choses prédictives qui sont plutôt intéressantes.
Ouais, c'est ça, c'est que l'idée, il y a une idée derrière, il y a un concept derrière, et comme d'habitude, ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est que Amazon, avec son approche, on essaye 1000 trucs différents et on voit ce qui fonctionne et ce qui est cool, eh ben, ils sont peut-être, encore une fois, tombés sur quelque chose qui pourrait... bon, là, on n'est pas dans un domaine qui va révolutionner le monde non plus, hein, c'est un petit détail, mais ça pourrait, à mon sens, donner quelque chose à terme. On verra.
Tu combines ça avec ton... ta Tesla Truck dans ton coffre, en fait, ça met ça dans ton coffre, c'est que quand mon mari va faire les courses, ben, en fait, ça dirait automatiquement qu'il a oublié quelque chose quand il rentre. Tu vois, ça fait une notification. Tu vois, c'est génial. Non, mais je suis sûr qu'il y a des...
Ouais, il y a des, il y a des trucs à faire comme ça, ouais, c'est vrai. Autre news, c'est une décision de Google qui est intéressante. C'est un petit peu la saga de l'automne. La manière dont les... publicités politiques aux États-Unis sont autorisées ou pas autorisées. En l'occurrence, bon, vous savez, on vous en a parlé sur Twitter, Facebook et tous ces, et avec tous ces, ces approches différentes qu'ils ont prises. Là, on parle de Google qui a pris une décision sur les publicités à caractère politique. Là, c'est en Angleterre. Ils ont décidé qu'ils allaient limiter le ciblage politique qui était possible. Vous vous souvenez que quand on en parlait, il y avait plusieurs solutions envisageables dans différents contextes. En France, bien sûr, la publicité de partis politiques est interdite. En particulier, c'est encore plus restreint pendant les campagnes, j'allais dire les campagnes publicitaires, pendant les campagnes pour des élections, les campagnes électorales. Mais d'une manière générale, les publicités politiques sont interdites. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Et donc, il y a eu de grosses questions qui se sont posées sur le micro-ciblage, quand on pouvait d'une part déterminer le profil de personnes très précises et puis ensuite les cibler de manière presque aussi précise, donc créer un message politique dont il est difficile de déterminer la véracité, la justesse et la comment dire, ce genre de caractéristiques qui sont importantes dans un message politique et jouer avec les peurs spécifiques, même plus d'un petit groupe de personnes, mais presque au niveau individuel. Alors, ce qu'a décidé Google, c'est que dans les pubs désormais, ils vont, en tout cas en période électorale, et pour les pubs politiques, limiter le ciblage de manière à avoir uniquement l'âge, le sexe et la localisation au niveau du code postal comme caractère de ciblage possible. C'est-à-dire que tout ce qui est plus précis que ça, cibler, je ne sais pas moi, une ville ou un âge spécifique, là ça va être des catégories d'âge, etc., ça va être, ça va pas être possible. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire utiliser le ciblage comme arme politique pour dire à une personne spécifique ce qu'elle a envie d'entendre. C'est intéressant parce que c'est une solution dont on avait parlé à plusieurs reprises, cette solution de ne pas interdire les pubs, mais de limiter le micro-ciblage en ciblage, on va dire, plus classique. Là, peut-être que ça correspondra plus ou moins à ce qu'on peut avoir comme publicité à la télévision, parce qu'on sait que à la télévision, il peut y avoir une catégorie d'âge, une tranche d'âge qui va regarder tel programme, etc. Ils vont l'implémenter en Angleterre dès là, ces jours-ci. Et là où c'est intéressant, c'est que comme je le dis à chaque fois, il est impossible de prendre une décision qui contente tout le monde sur ces sujets compliqués. Et ben, cette décision qui va s'appliquer plus tard aux États-Unis a été critiquée, ou en tout cas, peut-être pas 100% critiquée, parce qu'on commence à savoir et à comprendre qu'il faut limiter ce genre de choses et les gens qui disent que, enfin, qui s'en plaignent n'ont pas bonne presse. Mais en tout cas, pour les campagnes à venir, le problème, c'est que au niveau des États-Unis, les républicains et les démocrates avaient des plans de campagne publicitaire pour leur campagne électorale très précis et du coup, ils ne vont pas pouvoir les implémenter. Donc, ça va possiblement changer la manière dont le jeu est joué et les règles sont utilisées. Et c'est pas plus mal, a priori, mais c'est marrant de voir que même là, sur une solution qui semble raisonnable, bah, y a des gens qui grommellent et qui sont pas hyper contents. Bon, dans l'ensemble, je crois que c'est quand même une bonne solution, et même s'il y a des limites où il va falloir décider qu'est-ce qui est quoi et comment on fait certaines choses, je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour dire que c'est une bonne solution. On en a déjà discuté hein, dans l'émission à plusieurs reprises, Gaël, mais je ne sais pas si tu as un avis sur cette limite spécifique.
Écoute, sur cette limite, je l'ai retourné un peu dans tous les sens, que je me suis dit où est-ce qu'on va pouvoir rentrer par la petite porte derrière. Ils l'ont plutôt bien fait, parce qu'effectivement, tu pourras pas faire ce qu'on appelle du reciblage non plus, du retargeting. Donc ça veut dire que, parce que je me suis dit, ils vont réussir à trouver de la donnée et à la réutiliser par ailleurs, ou ils vont utiliser leur propre ciblage ou d'autres plateformes, etc. Ils ont vraiment bien mis des limites partout, par toutes les petites portes et fenêtres et cheminées. A priori, ils ont bien cadré les choses, Google, pour que ça reste vraiment très large et qu'il n'y ait pas de dérive possible. Donc, bravo. Après, il reste deux choses, effectivement. La première, c'est de dire c'est quoi une publicité politique ? Est-ce que si moi je suis, parce que n'importe qui peut faire de la publicité sur Google, donc est-ce que c'est l'acheteur qui est considéré comme parti politique, donc dans ces cas-là, ceux-là n'ont pas le droit de faire de publicité, mais est-ce que moi en tant que particulier j'ai le droit de faire de la publicité et de passer des messages avec mon droit à ma liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je veux, comment ça se passe dans ces cas-là? Parce qu'effectivement on peut imaginer plein de petites associations qui eux vont faire de la publicité et qui ne seront pas des partis politiques. Est-ce que c'est une des dérives qui va avoir lieu ? J'en sais rien.
Bah, c'est un petit peu le problème qui se posait avec la décision de Twitter de ne pas autoriser les publicités politiques du tout. C'est la même question qui se pose. Elle se pose là aussi, et c'est ce que je disais quand je parlais de ces, pas les effets de bord, mais enfin ces limites ou qui peuvent être un petit peu floues parfois. Ça, je crois que c'est effectivement inévitable, mais c'est une question qui se pose, t'as raison, ouais.
Et finalement, la problématique n'était pas tellement sur Google. Donc, c'est les premiers à faire quelque chose, mais finalement, c'était pas eux. C'est pas eux qui ont causé le plus de problèmes dans les campagnes politiques. C'est plutôt
les réseaux sociaux.
Et eux ne bougent pas pour l'instant. Donc, à voir si ça va les faire bouger ou pas. C'est peut-être ça qui sera intéressant. C'est plutôt l'effet domino que j'espère qu'il va avoir lieu et pas seulement Google, parce qu'effectivement, finalement, sur du search ou de la campagne très publicitaire, au final c'est pas ça qui a changé la donne. En revanche, les contenus YouTube qui sont pas de la publicité, qui renvoient sur des vidéos de propagande, là ça, il n'y a pas encore de solution là-dessus, par exemple.
Oui, ça c'est effectivement un autre problème. Je crois que tu as raison, la pression sur Facebook en particulier, puisque Twitter a décidé de ne pas autoriser les contenus publicitaires politiques, bah la pression sur Facebook, qui est le gros réseau social qui reste, est de plus en plus forte. Parce que tout le monde fait des choses, sauf eux.
C'est ça.
Et d'ailleurs, tiens, je vais peut-être parler de ce sujet qui est un petit peu lourd maintenant. D'une part... Ouais, bon, allez, on va en parler maintenant. Je pensais le faire un petit peu plus tard, mais on va en parler maintenant. En fait, c'est une publicité. Bon, je vais dire un autre truc entre temps. Il y a Suzanne Wojcicki, la présidente de YouTube, qui a dit également, toujours à propos de publicité, qu'il travaillait à la possibilité d'ajouter de la publicité pour les contenus qu'ils appellent edgy, c'est-à-dire des contenus limites. Vous vous souvenez peut-être que il y a quelques temps, Google, il y a un an maintenant, Google a créé le adpocalypse sur YouTube en donnant le contrôle total aux annonceurs qui pouvaient décider de ne pas mettre de la pub sur des contenus qu'ils jugeaient inappropriés. Et le problème, c'est que les contenus inappropriés, entre guillemets, c'est très très large. C'est dès qu'une marque a peur de quoi que ce soit, ils peuvent décider, on veut pas de pub sur ce contenu. Et le quoi que ce soit, comme je le disais, ça peut être très large. Ça peut être des gens qui parlent, je dis n'importe quoi, mais de tatouages, de news politiques, de sexualité, ça peut être énormément de choses. Et du coup, ça avait retiré à beaucoup de YouTubers la possibilité de monétiser leurs vidéos, mais en même temps je pense qu'on peut comprendre que les annonceurs comme on peut pas passer en revue chaque vidéo sur laquelle notre pub va arriver, ils se disent, bon bah il y a des trucs qui peuvent être limites, on va être que sur du contenu safe. Et ben là YouTube est en train de s'attaquer à ces autres types de contenus et ils vont avoir la possibilité pour des marques qui, à qui ça ne fait pas peur, peut-être avec une classification plus précise, la possibilité d'avoir de la publicité sur ces contenus. Ce qui est une bonne chose pour YouTube et puis en même temps pour la liberté d'expression d'une certaine manière, parce que c'est pas contenu edgy ne veut pas dire contenu dangereux ou pornographique ou ce genre de choses. C'était juste du contenu auquel les pubs voulaient pas forcément s'associer de manière aveugle, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Et ben YouTube, après avoir dégrossi le travail, est en train de travailler à trouver des solutions pour ces, pas ces niches, mais ces éléments un petit peu plus spécifiques. Qu'il faut regarder de manière un peu plus précise. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne les critiquais pas de manière outrancière, comme l'avaient pu le faire certains YouTubers qui avaient perdu leur monétisation quand c'est arrivé, l'adpocalypse. Mais je suis content quand même qu'ils aillent dans cette direction pour autoriser des contenus un peu différents à être monétisés aussi, parce que ça peut être nécessaire. Voilà, je ne sais pas si tu as une chose à ajouter là-dessus, Gaël. Je pense que c'est assez neutre comme news.
Oui, et puis je suis d'accord avec toi, effectivement. Il leur a fallu le temps de réfléchir à la question et de trouver les solutions. Ils y vont, c'est très bien.
Très bien. Donc, ce sujet hyper compliqué dont je voulais vous parler, qui a fait suite à un tweet de Guillaume Borde, auquel j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, même si je ne lui ai pas répondu, je l'ai gardé. Vous savez, moi, je garde les choses à l'esprit. Donc, merci Guillaume. Mais avant ça, vous voyez un teasing de folie que je suis en train de vous faire. Je vais vous faire, en fait, deux choses dont je veux vous parler. D'une part, double teasing. Il va y avoir à la fin de l'émission, en fin d'émission, un message de Yann qui nous dit quelque chose de très important. Vous vous souvenez, Yann, l'un des cofondateurs, animateurs cofondateurs du Rendez-vous Tech, avec lequel on a parlé d'un sujet. On n'était pas d'accord sur de très nombreux sujets avec Yann, mais un sujet en particulier qui court depuis des années et des années. Et ben, à ce propos, Yann a un message pour vous que je passerai en fin d'émission. Et je pense que les anciens qui écoutent l'émission depuis un moment vont être surpris, choqués, peut-être même déçus un petit peu. Mais vous entendrez ça en fin d'émission, on en parlera. Et puis évidemment, l'autre sujet que je veux évoquer, c'est le rendez-vous tech sur Patreon, c'est-à-dire le soutien que vous pouvez faire de l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. C'est le moyen de soutenir l'émission si vous l'appréciez, si vous l'écoutez depuis un moment, si elle vous plaît, si elle vous informe. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment une valeur importante de l'émission. En tout cas, j'essaye, moi, de la concevoir pour vous apporter quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas avoir ailleurs de la même manière. Et ce panorama d'animateurs, ce panorama de news, ces explications qu'on essaye de faire des choses importantes pour comprendre le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, eh ben, j'espère que ça a de la valeur pour vous. Et en plus, on le fait dans la bonne humeur, donc ça vous permet de passer un bon moment en écoutant et donc de vouloir écouter plus et donc de rester informé. C'est une sorte de cercle vertueux. Eh ben, j'espère que ça a de la valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous encourage à compenser cette valeur en pensant à soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Il y a tous les types de niveaux. À partir de 1 $ par épisode, vous avez accès à des récompenses sympas, comme par exemple le flux pur de l'émission, sans pub, sans promo, même Patreon, celle-ci que je fais au milieu, et en plus des petits bonus sympas. Donc, si vous voulez soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait et si vous pensez que ça a de la valeur, allez sur patreon.com/rdvtech, ça prend 2 minutes et ça vous permet de soutenir l'émission. Le lien est dans les notes de l'émission sur votre app de podcast patreon.com/rdvtech. Et merci à vous tous qui le faites déjà.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc, ce sujet grave, compliqué, le tweet que m'a envoyé Guillaume, en fait, c'était un tweet qui a été qui expliquait ou qui relatait un petit discours qu'a fait Sacha Baron Cohen, l'humoriste anglais que tout le monde connaît, je pense. Il parle de plein de choses dans son petit discours, mais je me focalise sur un sujet spécifique qui est si Facebook existait dans les années 30, ils auraient autorisé Hitler à poster des pubs sur son idéologie. Et alors, on est en plein point Godwin, mais quand on parle de politique, ben, le point Godwin, il est cohérent. Hein, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et c'est une question qui m'a vraiment posé problème, parce que vous savez que moi, souvent, je suis mesuré sur ce genre de choses. Et en l'occurrence, je comprends pourquoi Facebook décide de moins contrôler les publicités politiques qu'ils mettent et les messages politiques qu'ils mettent en général sur leur plateforme. Parce qu'il y a une question de pluralité d'opinion, etc. Et du coup, en écoutant cette idée, je me suis vraiment posé la question, c'est vrai, est-ce que si on était dans les années 30 et que Facebook existait, est-ce qu'on aurait vu des messages du parti nazi sur Facebook, parce qu'il faut accepter les opinions de tout le monde, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Et j'ai vraiment dû me creuser la tête pour comprendre pourquoi cette chose-là serait peut-être possible, pourquoi ça serait acceptable ou pas selon les règles qu'on établit. Et en fait, je crois que j'ai réussi à trouver la logique de la chose, parce que évidemment, quand a priori comme ça, je me dis bah je crois que possiblement oui, Facebook aurait autorisé le parti nazi à faire de la pub sur sa plateforme. Et vu d'ici, c'est complètement inacceptable. Le problème, c'est que ça pose la question de manière un petit peu compliquée. Et de manière un petit peu faussée, parce qu'aujourd'hui, les idéologies d'extrême droite sont inacceptables parce qu'on a vécu la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et qu'on a des lois qui n'interdisent pas à un parti politique de s'exprimer, mais qui interdisent les discours d'incitation à la haine. Et ça, c'est interdit, donc c'est illégal. Et pour moi, ce que doit faire Facebook, comme toujours, c'est respecter la loi. Alors ensuite, est-ce qu'ils y arrivent ou pas ? Est-ce qu'il y a trop de contenu à vérifier ou pas ? C'est presque une autre question. Mais ce qu'il faudrait, la règle, c'est que Facebook doit faire respecter la loi. Et donc, en tout cas, dans les pubs et autant que possible dans les contenus postés par les utilisateurs, supprimer, et c'est dans ce sens qu'on a modifié les lois, supprimer les contenus d'incitation à la haine. Évidemment, l'idéologie nazie est de l'incitation à la haine. Donc, il faudrait que Facebook, si on la voit, et si on la voyait même dans les années 30, si on avait cette loi d'interdiction de présentation d'incitation à la haine, eh ben, il faudrait que Facebook supprime ses contenus, même si on était dans les années 30. C'est une analogie un petit peu alambiquée, mais il faudrait qu'il les supprime. Mais il ne faut pas qu'il les supprime, parce que Facebook a décidé que ça, il ne fallait pas en parler. C'est là que réside la subtilité de ce raisonnement. Ce n'est pas Facebook qui doit décider qu'on ne peut pas parler d'idéologie nazie. Ce n'est pas à Facebook de prendre cette décision. C'est à la loi de prendre cette décision. Et donc, Facebook doit respecter, et autant que possible, avec les difficultés qu'ils ont, parce que le contenu est très nombreux, mais doit respecter la loi et faire respecter autant que possible la loi sur sa plateforme. Mais respecter la loi. On ne demande pas à Facebook de faire la loi. Donc, dans cette optique, je crois que le problème n'est pas posé de manière logique. Parce qu'on demande, on dit « Facebook aurait laissé les nazis s'exprimer sur sa plateforme ». Oui et non. Facebook aurait dû et doit aujourd'hui faire respecter la loi. Et je ne veux pas que ça soit Facebook qui décide quelle idéologie politique est acceptable ou pas avoir sur sa plateforme Facebook. Et c'est pour ça qu'on a, à mon sens, une solution qui est plus adaptée au monde d'aujourd'hui en Europe que c'est le cas aux États-Unis ou en Angleterre, où la liberté d'expression est un petit peu sans limite, même dans certains cas, dans le cadre d'incitation à la haine. On a en fait, à peu de choses près, on a une ou deux exceptions qui sont très fortes dans les sociétés occidentales, et en particulier en Europe, c'est l'incitation à la haine et la pornographie, ou plutôt même la pédopornographie et quelques autres contenus. Mais en gros, ces contenus-là sont très régulés. Et donc, il y a des lois qui doivent s'appliquer, et les changements qu'on a faits pour les demandes qu'on fait à ces réseaux sociaux, comme par exemple le fait de les autoriser à supprimer sans l'avis d'un juge, avec leurs équipes de modération, les contenus qui enfreignent clairement la loi, eh ben, c'est pour ça que je disais que c'est une bonne décision, même si on peut avoir peur que ça restreigne la liberté d'expression sur les plateformes. On ne peut pas tout réguler, nous, en regardant tout au niveau de la au niveau des juges et des tribunaux. Et donc, on donne à Facebook le pouvoir de supprimer les choses quand elles sont clairement... elles vont à l'encontre des lois. Et c'est une délégation, mais une délégation qui est faite de manière mesurée et logique. Et dans cet esprit-là, évidemment que Facebook doit supprimer les contenus qui sont clairement de l'incitation à la haine. Donc, oui et non à ce que dit Sacha Baron Cohen. Il dit énormément d'autres choses qui sont hyper intéressantes et qui sont justes. Sur ce point, je trouve qu'il y a un floutage de la situation. Et encore une fois, c'est pas à Facebook de décider si les nazis sont gentils ou pas. Ça peut être choquant de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est pas à Facebook de décider que les nazis sont méchants. C'est à la loi de décider que les nazis sont méchants, à la loi de dire on n'a pas le droit de dire des choses qui sont du registre de l'incitation à la haine raciale, et Facebook suit cette loi. Donc, je sais pas, Gaël, si ma logique est logique ou pas, ou s'il y a quand même quelque chose de gênant dans avec ce que dit Sacha Baron Cohen.
Là, on est sur un sujet, il nous faudrait beaucoup d'heures pour en discuter. Ouais. Mais en fait, là où c'est très complexe comme sujet.
T'es pas obligé de te mouiller, hein.
C'est pas une question de se mouiller ou pas, c'est de bien dire les choses et de refléter ma pensée avec les bonnes paroles. C'est de dire, en fait, si tu veux, parce qu'en plus, si tu te dis que dans certains pays, la loi fait que, à un moment donné, les nazis sont passés au gouvernement, et donc, du coup, pour eux, ils avaient la loi de leur côté. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, en Allemagne, si Facebook Allemagne aurait été dans la loi en respectant la loi, puisque c'était Hitler à la tête, et donc Hitler avait le droit de faire toute la propagande qu'il voulait. Si je vais jusqu'au bout de ton raisonnement, puisque tu me dis c'est la loi qui doit décider. Donc ça veut dire qu'on dit finalement s'il y a des pays qui sont des pays de dictateurs, ils ont le droit puisque la loi est de leur côté. Donc déjà on en vient à la loi de chaque nation.
C'est sûr. Non mais c'est évident, mais c'est ça qui est problématique.
C'est un vrai problème. Donc déjà, après moi je pense qu'au-delà, pour sortir juste un tout petit peu du contenu et de dire effectivement là où je te rejoins, c'est qu'à un moment donné il y a des règles et on demande à Facebook d'appliquer des règles parce que c'est pas eux qui font la loi, ça je suis d'accord avec toi. Et donc quand ça enfreint les règles, ils doivent supprimer. Ce qu'on reproche à Facebook, c'est pas que ça. Et c'est effectivement de dire ils n'ont pas à faire la loi et à décider de ce qui est bien, ce qui est mal, parce que après tout, si d'ailleurs c'était un nazi qui passait à la tête de Facebook, c'est lui qui déciderait ce qui est bien, ce qui est mal, et il pourrait supprimer ce qu'il a envie. Donc c'est pas à eux de décider, on est d'accord là-dessus. La problématique qu'il y a avec Facebook, c'est la manipulation. Et c'est la manipulation au travers de l'algorithme d'engagement et au travers du ciblage. On en revient toujours à cette histoire de ciblage.
Ouais, c'est vraiment l'histoire de 2019, quoi.
Si je peux cibler des gens très précisément à leur faire entendre ce que j'ai exactement envie d'entendre pour les faire basculer, là on est dans de la manipulation, là ça devient problématique, et là la responsabilité sur l'algorithme qui en plus, si tu veux, pousse en général à diffuser ce qui est le plus... Les contenus les plus haineux en général ou les plus probables.
Qui font le plus réagir en fait, c'est ça.
Qui font réagir, qui font l'engagement, si tu veux, exactement. Donc c'est là où en général, et c'est ce qu'il dit dans son discours, il dit en fait le problème c'est leur business model de l'engagement et le fait que finalement la vérité n'a pas de valeur et finalement le mensonge a plus de valeur. C'est vraiment ça que ça, tu vois, on arrive à ça. Et le problème derrière ça, moi je vais revenir aussi sur les jeunes, les moins jeunes aussi, hein, mais à un moment donné où t'essayes de t'informer, t'essayes de comprendre, t'essayes de savoir ce que de trouver la vérité, et on te donne plein de contenus, de petits contenus qui vont pas être, en plus le problème c'est ce qui est insidieux, c'est pas un contenu qui te dit des choses racistes ou des choses absolument monstrueuses. À la limite, c'est presque facile quand c'est noir ou quand c'est blanc, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais quand c'est insidieux, avec des petites choses, des petits détails, et puis si tu veux que l'algorithme fait qu'on te pousse plein de petits contenus qui, au fur et à mesure, vont te faire basculer, elle est là la problématique.
Ouais. Oui, mais ça, à la limite, c'est évidemment un gros problème de Facebook, et il en parle, Cohen, dans son discours. Je dirais que c'est un autre problème encore que la pub autorisée sur le type de contenu dans la pub autorisée. Et ça, c'est plus difficile à résoudre encore. Mais ouais, ouais, bon, tu as des arguments tout à fait justes, et là encore, je ne sais pas si j'ai une réponse adaptée.
Très bonne phrase qui est difficile à traduire en français, malheureusement, où il dit « Freedom of speech is not freedom of reach ». Et il est là aussi le problème, c'est-à-dire, en fait, la liberté d'expression, il ne faut pas confondre avec la liberté. Enfin, le problème, c'est le nombre à tous ces gens à qui tu diffuses, en fait, et régulièrement, des informations qui ne sont pas forcément bonnes, et qui sont haineuses, et qui sont insidieuses, etc. Et c'est là où c'est problématique.
Ouais.
Je te rejoins quand même aussi sur le fait qu'à un moment donné, c'est pas eux de faire la loi non plus, et ça pourrait poser d'autres dérives aussi. Donc,
ouais. C'est ça le problème, c'est qu'on est comme toujours dans ces situations, dans un cas où il faut choisir la moins pire des solutions. Et moi, je pense que donner à Facebook, même si, comme tu le dis très bien, le fait de dire Facebook doit respecter les lois des pays où ils sont, bah oui, ça donne des choses comme la Russie, dont on va parler dans un moment, ou d'autres pays avec des dictatures, où les lois ne sont pas hyper... Mais là, le problème, c'est la loi, c'est pas forcément Facebook, même si, avec les questions d'algorithme, oui, ça... Mais l'alternative, c'est dire, Facebook doit décider, là, il faut être prêt... pour un roller coaster ride, des montagnes russes sur l'éthique et la morale. Et déjà que là, si on a l'impression que les choses vont pas bien, si on dit Facebook décide ce qu'est la morale, bonjour et merci, et super pour adapter ce type de décision à tous les pays. Parce que oui, évidemment, sur les nazis, on va tous tomber d'accord. Ça, c'est pas le problème. Et la question, on est tous d'accord que Facebook devrait pas autoriser ce type de contenu. Mais sur les autres questions, si on laisse les clés à Facebook, coordonner entre les États-Unis puritains et les Européens plus cool sur certains sujets. Et encore, nous, on voit que les trucs où les États-Unis sont plus puritains que nous. Mais je peux vous dire qu'il y a des sujets sur lesquels ils nous regardent et ils nous disent « Mais vous êtes malade, vous êtes hyper restrictif. » Donc, encore une fois, on n'a pas de solution. Mais sur ce point spécifique de Facebook aurait autorisé Hitler dans les années 30, je reste quand même sur ce point très précis. Je reste convaincu que oui, mais non, parce que tout ce que j'ai expliqué. Bref. La Russie a décidé de bannir les appareils électroniques, téléphones, télé, ordinateurs, qui n'ont pas des logiciels préinstallés d'origine russe. Alors là, on se dit, ah mais mon Dieu, ça veut dire que la dictature russe fait encore preuve de sa sévérité, et donc ils vont avoir des logiciels qui sont contrôlés par le gouvernement russe. Et bien là aussi, c'est un peu non, mais un peu oui quand même. Qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans ? La loi vient d'être votée, et elle sera en effet en juillet 2020. De quoi s'agit-il ? En fait, ça ne veut pas dire que Les appareils vendus en Russie ne peuvent pas avoir les logiciels et les services avec lesquels ils sont vendus généralement dans d'autres pays, mais ils doivent aussi avoir des alternatives russes avec la justification qui est une question de dominance des services américains, comme c'est une question qui se pose tout à fait en Europe aussi. On peut imaginer, d'ailleurs certains l'ont suggéré, qu'il y ait un jour l'obligation pour les constructeurs de téléphones mobiles, par exemple, d'intégrer sur l'écran d'accueil des applications qui seraient là par défaut, qui font concurrence aux services existants. Un navigateur, un moteur de recherche, etc. Là où ça pose problème avec la Russie, c'est que le gouvernement russe exerce un contrôle non trivial sur certains de ses services. On pense à la manière dont ils ont notamment poussé leur intégration à des services comme Mail.ru, je crois que c'est Yandex et il y en a quelques autres, VKontakte, etc. Et là, donc, forcément, le fait de proposer aussi ces alternatives, ça veut dire qu'il y a eu plus de possibilités pour le gouvernement russe d'avoir des citoyens qui utilisent des services sur lesquels ils ont plus de contrôle. Mais en même temps, le gouvernement avait déjà instauré une loi qui obligeait les services qui exerçaient dans le pays à avoir des serveurs dans le pays. Et donc, on peut imaginer qu'il est également un petit peu plus simple pour le gouvernement russe d'espionner de toute façon ce qui se passe sur les services d'autres pays, les services américains. Encore qu'il peut y avoir du chiffrement, etc. Donc, c'est quand même plus facile sur les services russes. Donc, est-ce que c'est une décision, une loi liberticide, ou est-ce que c'est pour pousser à la concurrence avec les alternatives russes? Moi, je crois qu'il y a un peu des deux, et que l'un est utilisé pour justifier l'autre quand même un petit peu, mais on ne peut pas en être certain. Bon, voilà. Maintenant, vous savez. Et d'ailleurs, à propos de liberté restreinte, Huawei, qui est encore au cœur de toutes les controverses, a fait un procès à un chercheur, un journaliste et un expert en télécommunications qui ont, on n'a pas les noms, on ne sait pas de qui il s'agit exactement, mais ce sont des Français qui ont dit à la télévision que il y a trois choses spécifiques qui ont été dites qui sont niées par Huawei. Attendez que je vous retrouve les choses spécifiques. Que Huawei est contrôlé par le gouvernement chinois, que le président faisait partie des services d'espionnage chinois. C'est pas tout à fait le cas. Il était un ingénieur dans dans la People's Liberation Army, donc le parti communiste chinois, et que Huawei utilise ces matériels en Occident pour espionner l'Occident. Et tout ça, c'est des choses qu'on a entendues, mais dont les preuves n'ont jamais été amenées, ni aux États-Unis, ni en France. Et là, c'est la première fois, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est la première fois que Huawei fait un procès, donc prend une action légale spécifique contre ce type d'affirmation. Et donc, c'est un procès en diffamation contre ce journaliste, ce chercheur et cet expert en télécommunications. On n'a pas encore les noms, peut-être que ça arrivera à un moment, mais c'est intéressant de voir que là, ils se disent « bon, ça suffit maintenant, ces conneries, c'est pas vrai, donc il y a une signification de ce procès qui va au-delà de ces trois personnes spécifiques. » Ouais, sur la Russie ou sur Huawei, je ne sais pas si tu as...
Alors, sur Huawei, je ne dirai rien parce que j'ai pas envie de me prendre un procès. Donc,
ça va être un procès important, hein, justement, parce que ça va. Et mine de rien, c'est pas plus mal parce que toutes ces affirmations qui sont sans preuve, eh ben là, on va avoir un procès pour nous dire si oui ou non on peut les faire sans preuve. Évidemment, on pourra dire. Il semblerait que peut-être, là ça a été des affirmations, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoquer la possibilité, même s'ils perdent leur procès, ces journalistes. Mais oui, pardon, mais sur la Russie ?
Et sur la Russie, on ne sait jamais aussi, on l'écoutait, donc ils sont capables. Bon. Non, sur la Russie, ça pose problème parce que c'est la Russie, mais fondamentalement, ouais. Ça serait un autre pays, ça ferait moins parler, je pense.
Ouais. Bah, d'ailleurs, oui, comme on le disait, en Europe, la solution a été évoquée aussi, ouais. Apple a annoncé un event le 2 décembre, mais il n'y aura pas d'annonce de matériel a priori. C'est vraiment un truc différent qu'ils vont faire, ça a l'air d'être, on ne sait pas exactement, mais ça a l'air d'être une sorte de meilleures applications de l'App Store qui vont être honorées. Ça va être une sorte de App Awards d'Apple. Ça va être donc le 2 décembre. C'est un peu bizarre. Je vois très mal comment ça pourrait passer le App Awards d'Apple. J'imagine qu'ils vont faire ça de manière très sobre. Mais bon, on va voir. À noter qu'ils ont aussi supprimé la section de commentaires sur leur store en ligne, ce qui est pas plus mal parce que franchement, les commentaires, c'est pas toujours très utile, surtout quand c'est sur Amazon, on peut avoir des avis différents. Quand c'est sur la boutique d'Apple, ça devient un peu bordélique. Je comprends pourquoi, c'est un truc de moins à gérer. Mais surtout, ils sont en train de revoir la manière dont ils gèrent leur logiciel, parce qu'on a eu beaucoup de bugs dans les dernières sorties logicielles, en particulier les gros OS comme iOS 13 ou macOS Catalina. Et ils se rendent compte que la manière dont ils gèrent les choses ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et même les développeurs s'en plaignaient, c'était de pire en pire. Et donc peut-être que dans les années à venir, on va avoir moins de iOS 13.1, 13.1.1, 13.1.2 à une semaine d'intervalle pour que les choses soient un peu plus clean dès la sortie. Et puis voilà, bon, y a d'autres petites choses comme le fait que le nouveau Magic Keyboard pourrait arriver dans les MacBook Pro 13 pouces ou peut-être même d'autres appareils en 2020 au premier semestre. On s'en doutait un petit peu. Donc si vous voulez acheter un nouveau MacBook, peut-être attendez le premier semestre 2020 parce que ça risque de changer. Tiens, je voudrais vous parler un petit peu de tech et de plaisir tech que j'ai pris ces derniers jours. D'une part, j'ai testé un petit peu le Oculus Link avec le Oculus Quest. Vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit. Le Oculus Quest, c'est le casque de réalité virtuelle autonome de Facebook, donc de Oculus, qui n'a pas de câble, mais qui peut désormais, grâce à un logiciel, une mise à jour logicielle du logiciel de Oculus de PC, être connecté au PC et donc utiliser les jeux et les apps qui sont développés pour la version filaire. Ça avait été annoncé il y a quelques temps. Là, ça a été implémenté. J'ai testé la chose et figurez-vous que ça marche pas mal du tout, même avec mon PC qui est très très vieux, qui date de 2014, donc il a 5 ans, le PC. C'est une carte graphique GTX 970 et un vieux Core i7, je crois, 4700. Ça me fait du bien de parler un petit peu de technologie, de trucs de geek, tu vois, les noms des cartes graphiques et des processeurs, ça me fait plaisir.
Et puis surtout, ça pousse les patriotes à dire il va falloir qu'on change ton PC, donc il faut participer.
Ça, j'avoue que... Mais alors justement, tu sais, c'est un autre sujet qui est lié à ça, parce que quand l'Oculus Link est sorti, a été rendu disponible, ma carte graphique, qui est très vieille, n'était pas compatible. Et c'était pas compatible pendant une semaine. Donc pendant cette semaine-là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il serait temps de mettre à jour le PC, au moins acheter une nouvelle carte graphique. Et puis quand j'ai vu l'achat... D'une part, ça coûte les yeux de la tête aujourd'hui, les cartes graphiques. Le prix a augmenté parce que c'est du matériel encore plus haut de gamme qu'avant. Avant, on avait un milieu de gamme à 300-350 €. Aujourd'hui, le milieu de gamme, il est à 500, quoi. Bon, l'inflation, tout ça, mais quand même. Et puis, on ne peut pas juste changer la carte graphique. Ma machine est tellement vieille que le processeur est trop vieux, ça limiterait vachement la carte graphique. Donc, il faudrait peut-être un nouveau processeur. Mais le nouveau processeur, il n'utilise pas le même socket que mon ancien processeur parce qu'il est trop vieux. Donc, les sockets, les prises sur les cartes mères ont changé. Donc, il faudrait que je change aussi de carte mère. En plus de ça, le boîtier, eh ben, il est trop petit pour accepter la carte graphique qui fait 33 cm au lieu de 28. Et donc, comme la 28, elle passait déjà à peine, il faudrait que je change aussi de boîtier. Et l'alimentation, elle est à 500 watts. Donc, je ne suis pas sûr que ça aille avec ça devrait passer, mais ce n'est pas sûr, avec la nouvelle carte graphique qui consomme plus. Donc, en gros, il faudrait tout changer. Et pour avoir du matériel qui soit vraiment... Parce que pour être honnête, celui que j'ai aujourd'hui, il convient quand même pas mal. Il fait tourner les choses à peu près correctement. Mais peut-être que si je veux un plus grand écran avec une meilleure résolution ou un meilleur taux de rafraîchissement, genre un 1440p en 120 Hz, quelque chose comme ça, eh ben, il faudrait du matériel plus puissant. Donc en gros, si je veux changer un truc, je dois changer tous les trucs. Et c'est, en même temps, ça a été un grand plaisir de me replonger là-dedans. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions sur Twitter. C'était vraiment un moment de geekerie absolument intense et ça m'a fait hyper plaisir. Mais je me suis rendu compte que, bon, je vais peut-être attendre encore un peu parce qu'en plus, il y a les nouvelles consoles qui arrivent l'année prochaine. Il va falloir dépenser plein d'argent là-dedans aussi pour se tenir au courant. Et le truc, bon, je vais attendre encore un ou deux ans, je crois, parce que le PC, c'est vrai qu'on peut l'upgrader, mais il faut l'upgrader régulièrement. Sinon, il faut changer tout d'un coup parce que chaque composant dépend des autres composants. Donc, alors, il y a plein de gens qui m'ont dit aussi, oui, tu peux peut-être utiliser un Shadow PC. Et c'est vrai.
C'est
ce que tu allais dire, ouais. T'es pas la seule. Et c'est vrai que ça marche pas mal, mais je suis en Finlande. Et les serveurs sont un peu trop loin pour être assez fiables sur le long terme. Et puis surtout, moi, c'est ma machine de production. J'ai besoin d'un truc qui tourne de manière impeccable tout le temps. Et donc, un PC sur Shadow. Mais en même temps, moi, je suis abonné à Shadow depuis le tout début. Donc, je l'utilise et je me suis déjà inscrit pour la mise à jour de février. Donc, on verra en février. De toute façon, je vais attendre encore un moment, au moins plusieurs mois. Parce qu'en plus, il y a les cartes graphiques nouvelle génération qui arrivent au milieu de l'année prochaine, donc la série 3000. Donc peut-être qu'il faudra attendre ça, mais il y a toujours un truc à attendre dans les PC. C'est marrant, il y a des gens, je disais, il y a des Alienware et des Omen de HP qui ont l'air pas mal. Et il y a des gens qui me disaient, ah, mais Patrick, tu devrais monter ton PC, c'est super sympa, c'est super facile. Et là, je me suis senti tellement vieux parce que je regardais les commentaires des gens et je disais, mais les enfants, mais moi, je monte mon PC depuis quand vous étiez même pas nés, quoi. Moi, mon premier PC, je l'ai monté dans les années 90. Je fais ça depuis des années. Je connais parfaitement ces systèmes. Qu'est-ce que vous venez me dire? Tu devrais monter ton PC. Je me suis senti à la fois insulté, vieux et fier du fait que je pouvais dire que je le faisais. C'était super, super marrant. Mais en même temps, moi, je veux plus passer du temps à le faire. Ça m'emmerde de monter les PC. Je sais comment ça marche. Je l'ai fait plein de fois.
C'est là que
ça
vieillit.
Mais c'est ça. J'ai plus. Tu sais, c'est marrant parce que à un certain âge, on n'a plus le temps pour ces conneries. Surtout quand on a un enfant, c'est beaucoup moins de temps à passer à ce genre de truc. Et mine de rien, même si c'est facile, un PC monté soi-même, t'as toujours une chance sur deux pour qu'il y ait un truc qui marche pas, que tu doives le redémonter, le remonter, un driver qui merde, un truc qui est pas compatible avec un autre truc et tu passes tes journées ou tu passes des heures sur les forums à essayer de comprendre la pièce qui va pas avec l'autre. Je l'ai fait, je connais. Et même si c'est plus facile aujourd'hui, je sais que c'est... Bon, je l'ai fait il y a 5 ans le dernier, donc je connais ça. Mais je me suis dit, bon, donc je veux acheter un PC tout fait, mais d'une part, ça coûte super cher, et d'autre part, les PC tout fait, c'est pas exactement ce que je veux moi. Parce que moi, j'ai des goûts de luxe, de customisation. Je veux exactement la carte graphique que je veux, qui est bien silencieuse. Je veux le processeur spécifique que je veux. Je veux la quantité de RAM, le SSD, etc., etc. Donc, bref. Donc ça, c'était mes aventures d'upgrade de PC qui m'ont mené à la conclusion que, une semaine plus tard, après mes débuts de recherche, bah finalement, c'était pas forcément nécessaire parce que l'Oculus Link est désormais compatible avec ma carte graphique qui est vieille, mais qui fonctionne. Et le truc, c'est qu'il y a un nouveau jeu Half-Life qui a été annoncé pour la réalité virtuelle que je pourrais utiliser avec ce setup, mais dont la configuration recommandée est genre deux fois plus puissante que celle que j'ai. Donc, même si je pourrais l'avoir, je pourrais quand même pas y jouer sans changer de PC. C'est sans fin cette histoire, Gaël. Je sais pas.
C'est bientôt Noël.
Pour Noël, on sauve déjà un voyage au Japon en février, donc je sais pas s'il va pas rester d'argent. Mais bon, tout ça pour dire que le Oculus Link, donc la connexion au PC, a été rendue compatible avec mon matériel là, cette semaine, et j'ai donc pu la tester, mais il faut un câble bien spécifique. Il faut un câble qui soit USB 3 vers USB-C, qui puisse passer la charge et les données. Et tous les câbles ne font pas ça. J'ai fait tous les câbles que j'avais dans la maison et j'en ai trouvé un qui faisait ça, sauf que... est-ce que tu peux imaginer la blague, la fin de la blague, Gaël? Qu'est-ce qu'il avait de spécifique, ce câble, qui fait qu'il n'est pas idéal?
Alors là, je vois pas du tout.
Eh ben, il fait un mètre de long. Et donc, je dois le brancher derrière mon PC. Je dois le brancher derrière mon PC. Et je suis collé, parce que c'est un casque de réalité virtuelle, je suis collé à la au boîtier du PC avec le casque sur la tête. Et donc, bon, j'ai commandé un autre câble.
Tu peux lui mettre une petite webcam pour qu'il puisse regarder quand tu joues.
Donc voilà, je voulais vous parler de mes aventures de réalité virtuelle et d'upgrade de PC. C'était bien marrant. Mais l'important est que l'Oculus Link fonctionne et fonctionne même pas mal du tout. Ça donne accès à tous les logiciels de réalité virtuelle de votre PC avec un Oculus Quest qui a aussi donc l'option d'être complètement indépendant avec des logiciels différents, bien sûr. C'est super pratique. J'ai même testé, figure-toi, tu parlais de Shadow PC, grâce à notre ami Jean-Noël qui m'a donné toutes les instructions à suivre pour ça. J'ai connecté en Wi-Fi l'Oculus Quest à la réalité virtuelle du Shadow PC sur le serveur en France.
Ah, alors ?
Eh bien, figure-toi que ça marche aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment utilisable avec la latence entre la France et la Finlande ? Franchement, la latence n'est pas ignoble. Elle est genre 30-40 millisecondes. Ça fonctionne, c'est plutôt des petites interruptions de temps en temps qui sont gênantes. Mais sur le principe, le fait que même ça puisse se connecter et ça fonctionne, j'ai trouvé ça un petit peu fou, quoi. Je suis avec mon casque de réalité virtuelle connecté en Wi-Fi à mon PC local qui est connecté au Shadow sur les serveurs en France. C'est vraiment... Enfin, on vit dans le futur, quoi. C'est complètement fou. Donc... Bref,
on y voilà. Est presque. Bientôt, tu n'auras plus à changer ton PC.
Écoute, oui, je pense qu'on n'est pas loin. D'ici quelques années, ça sera bien possible. Bon, on va conclure avec un sujet que j'ai trouvé intéressant. Alors, d'une part, une déclaration d'Emmanuel Macron sur les sites pornographiques. Il y a deux choses. D'une part, il veut empêcher les mineurs d'accéder aux sites pornographiques. Et ça, c'est un truc qui est assez préoccupant parce qu'il y a deux éléments. D'une part, il veut que les contrôles parentaux soient activés par défaut chez les, entre guillemets, acteurs d'Internet. Alors, qui sont les acteurs d'Internet ? On imagine les FAI, les fournisseurs de services, etc. Activés par défaut, les contrôles parentaux, je peux comprendre. Donc, les mettre activés par défaut plutôt que désactivés par défaut et ensuite, il faut les activer soi-même. Bon, les activer par défaut pour tout le monde, ça me paraît un petit peu exagéré, mais je peux comprendre. Et la deuxième partie, c'est qu'il veut contrôler l'âge à l'entrée des sites à contenu pornographique. Là, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué parce qu'il y a une loi qui a été votée puis retirée en Angleterre, une même loi qui pose les mêmes problèmes parce que c'est impossible à faire sérieusement sans poser des problèmes énormes par ailleurs. La même loi a été votée en Australie. Et alors, est-ce qu'il veut faire voter une loi de ce type ? Ça va nous donner de quoi discuter pendant des mois à venir si c'est effectivement quelque chose qu'il veut faire passer parce que l'implémentation, l'intention, je peux la comprendre, l'implémentation, c'est juste impossible. Et l'autre chose, c'est qu'il veut alourdir la peine pour la consultation d'images pédopornographiques. Alors là, on parle effectivement de pédopornographie, c'est un sujet beaucoup plus grave. La manière dont ça fonctionne, et je le mentionne parce que je pense qu'il y a des gens qui se poseraient la question de pourquoi, et bien en fait, il passe la peine d'emprisonnement, le plafond de 2 à 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'avec 5 ans, on est obligé de s'inscrire sur un fichier judiciaire qui répertorie les auteurs d'infractions sexuelles et violentes. C'est le FIJAIS. Et une fois qu'on est sur ce fichier, il y a aussi une obligation. Je ne sais pas si elle est déjà en place ou si elle est. Il voudrait qu'elle l'implémente, ce qui est logique. C'est l'obligation pour des entités qui travaillent avec des enfants de consulter ce fichier au moment d'une embauche, de manière à ce que les entités, les associations, les écoles, etc., puissent savoir et soient même obligés de savoir qu'une personne qu'ils vont embaucher a été inscrite à ce fichier. Et donc, on inclurait la consultation d'images pédopornographiques. Encore une fois, on ne parle pas juste de pornographie, mais de pédopornographie. Donc, que les entités sachent qu'une personne a consulté ou a été amateur d'images pédopornographiques. Ça me semble beaucoup plus cohérent, cette histoire. Il faut noter aussi que le fait, cette inscription est accompagnée d'une possibilité de réinsertion qui permet au bout de 5, 10 ou 15 ans, en fonction des conditions, l'inscription dans ce fichier est limitée à 20 ans. Donc, au bout de 20 ans, l'inscription est visiblement, alors il doit y avoir des conditions, l'inscription est supprimée. Donc, il y a quand même une condition de réinsertion, ce qui est, je pense, nécessaire. Même si, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais en tout cas, la première partie me semble cohérente. Gaël, tu travailles beaucoup avec des institutions qui travaillent avec des enfants. Tu as peut-être un avis, même si tu n'es pas une spécialiste de ce sujet spécifique, un avis sur la chose aussi. Moi, ça me paraît cohérent. Est-ce que ça te paraît cohérent aussi ?
Alors, il y a deux sujets qu'il faut quand même bien séparer. La pédopornographie, effectivement, la loi qu'il est en train de mettre en place, qui est très bien, effectivement, parce que ça va, comme tu l'as expliqué, c'est ce qu'il faut faire. Et il y a l'accès à la pornographie des enfants. Donc, c'est vraiment, ça n'a juste rien à voir.
Tu veux dire l'accès des enfants à la pornographie. Donc,
C'est effectivement, les deux sujets ont été donnés en même temps dans les journaux. Donc, il faut juste quand même bien les séparer. Et l'accès aux sites pornographiques par les mineurs, effectivement, c'est un problème. C'est un problème qui date d'il y a longtemps. L'interdiction, elle existait déjà. C'est comment tu l'implémentes. De dire aux opérateurs qu'il faut que ça soit fait sous les 6 mois, c'est bien de le dire, mais je ne vois pas réellement comment ça va changer les choses. Effectivement, comme tu l'as dit, en Angleterre, ils n'ont pas réussi. Donner 6 mois pour le faire, je pense que c'est un peu court et vaut mieux. Enfin, j'aimerais qu'on réfléchisse plus longtemps à ces éléments-là. Après, je pense qu'au-delà de l'interdiction, nous on est toujours sur le système de l'éducation, donc on est plutôt dans d'avis de dire il faut créer des espaces de discussion avec les jeunes, parce que quoi qu'il arrive, il ne faut pas se leurrer, ils finiront par tomber dessus, et que c'est des sujets que personne n'ose aborder, que ce soit les éducateurs, les parents, on n'a pas du tout envie d'aborder ces sujets-là avec nos enfants, surtout que c'est de plus en plus jeune, mais il va falloir le faire. Donc nous, on est plus dans cette optique-là de travailler avec des associations pour créer ces espaces de discussion avec les enfants pour qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont vu, parce que la plupart, si tu prends les chiffres, te disent, plus d'un enfant sur deux te dit, je suis tombé sur des sites pornographiques sans le vouloir et j'aurais pas dû.
C'est vrai, vouloir.
Ils ont voulu, ils ont dit j'étais trop jeune, j'aurais pas dû voir ça, et pourtant, voilà. Donc là, il y a un vrai problème, effectivement, et de toute façon, il va falloir prendre ça en compte.
Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, en tout cas, de mon point de vue, j'ai tendance à me dire, on tombe pas dessus sans chercher, et donc c'est limite un faux problème. Mais tu me confirmes que c'est pas du tout un faux problème, c'est que...
Il y a au-delà du fait qu'ils vont aller... Il y a une étude de l'IFOP qui est sortie il y a pas longtemps là-dessus, qui a donné ces chiffres-là, effectivement.
Donc, ouais.
Je pense qu'effectivement, de dire le contrôle parental par défaut, pareil, j'aime pas moi les interdictions, et je préfère toujours accompagner les gens plutôt que d'interdire ou d'imposer, plutôt que de dire obligeons les gens à avoir le contrôle parental par défaut, peut-être que si on mettait le bouton de façon plus juste, que ça soit plus visible et qu'on apprenne aux gens à l'activer, ça serait pas mal, parce que souvent les gens savent juste pas le faire.
Mais c'est tout le problème en fait, parce que même si c'est assez simple, le fait de l'expliquer aux gens, c'est jamais aussi efficace que de l'activer par défaut. Ça, le on by default ou opt-in ou opt-out, on le sait bien dans toutes les problématiques dont on parle tout le temps. Le opt-in, même si les gens savent, même si c'est facile, donc je comprends l'intention, mais...
Non, l'intention est louable de toute façon, et c'est bien, parce que quoi qu'il arrive, ça, au moins le sujet a commencé à être mis vraiment sur la table. Là, on est parti plutôt dans des interdictions, peut-être que ça va ramener sur des sujets plus d'éducation et de dire, comment est-ce qu'on apprend aux parents à faire attention parce qu'effectivement, de toute façon, à un moment donné, tu finis toujours par filer ton téléphone, et si sur ton téléphone, il sera forcément désactivé ou pas, j'en sais rien, mais
Pas s'il est activé par défaut.
Et s'il est activé par défaut, mais ça veut dire que tu le désactives au moment où toi, tu veux voir quelque chose de pornographique ?
Bah oui.
C'est vraiment
oui.
ça.
Et, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le désactiveront.
Est-ce
pas,
qu'ils vont le réactiver pour ensuite ?
Enfin, bon, non, mais il y a plein de gens qui le désactiveront pas simplement et qui n'auront pas accès à ces trucs parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait l'activer par défaut. Moi, je ne suis pas convaincu que ça soit la solution, mais je comprends la logique, quoi.
Non, je comprends la logique. Pareil, après, je suis pas sûr que ça soit la. Enfin, ça soit. En tout cas, c'est une partie de la réponse. C'est pas la meilleure réponse. Voilà. Mais oui, il y a un vrai problème. Il y a un accès à la pornographie de plus en plus jeune et surtout à des éléments pornographiques beaucoup plus trash qu'avant. Et c'est considéré. Enfin, pareil, hein, l'étude IFOP est très intéressante. Les gamins prennent ça comme des tutoriels. Hein, donc,
c'est un des vrais problèmes.
Donc.
Ouais. Bon, si tu veux que je te fasse encore plus peur sur ces sujets, il y avait un article fascinant sur Vice sur la conception d'avatars en 3D pour logiciels de réalité virtuelle notamment, des gens qui fabriquent, enfin qui modélisent des avatars en 3D sur commande. D'ex-copines, généralement, faut pas se leurrer, c'est surtout des modélisations de femmes, d'ex-copines ou de personnalités, de célébrités, pour des gens qui veulent les utiliser pour assouvir leurs fantasmes en 3D, en réalité virtuelle. Et je sais, c'est tellement compliqué, cette histoire, parce qu'à la fois, il y a quelque chose de viscéralement, malsain, dans cette l'utilisation de l'image personnifiée 3D-ifiée presque personnifiée de la personne, et en même temps c'est quelque chose qui reste du domaine du fantasme, enfin je sais pas, je connais très bien toutes ces histoires, mais je vous le dis, je savais pas du tout que ça existait, mais évidemment que ça existe en fait. Et des modeleurs, des modélisateurs 3D qui font ce genre de choses sur commande, ça me paraît complètement logique vu que la pornographie est toujours à la pointe de la technologie. Mais bref, c'était quelque chose d'hyper... je ne sais pas trop quoi en penser, mais maintenant vous savez.
Oui, ça va aller de plus en plus loin de toute façon, avec les deepfakes, tout ça, enfin bon, bref.
Ouais,
on en est qu'au début.
Ouais, et cette idée de... Ça me rappelle un petit peu, vous savez, dans Second Life, quand il y avait des... Ou l'idée qu'en réalité augmentée, on peut créer des mondes surimprimés sur des lieux existants. Et à qui appartient les données qui sont associées à un lieu physique qui existe dans la vraie vie. Genre, s'il y a des données qui sont associées à mon adresse à moi, ou à un magasin, ou au siège d'une marque, et que ça devient dans cette... Bah, c'est célèbre, c'est connu, et les gens le connaissent parce que il y a cette réalité de la chose, mais ils s'en servent, ou le service ou le truc s'en sert pour d'autres dessins. À qui ça appartient ? Comment est-ce qu'on gère la propriété de ce genre de choses ? Pareil, là, c'est l'image d'une personne qui existe, mais c'est complètement dissocié de cette personne. Si vous voulez prendre une photo de quelqu'un et l'afficher et prétendre que, vous voyez, mettre des photos de la personne dans votre maison pour faire comme si c'était votre femme, ben voilà, vous avez le droit, quoi. Donc, je sais pas. Bref, c'est...
Est-ce qu'on a le droit ? Je sais pas, d'ailleurs. C'est une bonne question.
Écoute, si je suis, je sais pas, je veux mettre des photos de Madonna dans ma maison et mettre des photos de... Bon, Madonna, elle est un petit peu plus âgée que moi, mais je sais pas, peut-être. Je crois pas que ça soit... Tu vois, c'est pas illégal. Et au-delà du fait que ça soit pas illégal, qui va aller contrôler ? Tu vois, tu peux pas...
Non, tant que ça reste chez toi, oui, effectivement. La sphère privée versus la sphère publique. À partir du moment où après, par contre, tu vas le poster sur les réseaux sociaux et tu vas dire...
Autre chose. Bref, il y aurait tout un sujet à faire là-dessus. Mais j'ai trouvé ça, effectivement, l'idée, par exemple... C'est une sorte de... L'idée qu'on a une modélisation d'une ex...
Ou peut-être d'une future,
mais une ex, je sais pas, je trouve ça à la fois de prime abord encore plus malsain, parce que tu vas continuer une relation virtuelle avec quelqu'un avec qui tu n'as plus de relation et qui veut peut-être plus avoir de relation avec toi, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la violation de l'intention de la personne, tu vois, de la volonté de la personne, et en même temps... Ça cause pas de mal. Est-ce que ça peut aider à quelqu'un si c'est fait de manière saine, à quelqu'un de tu vois passer tourner la page ou j'en sais rien. C'est un c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais bref. Pour conclure, on va parler de quelque chose de beaucoup plus positif. On a déjà fait un peu plus long que d'habitude, mais je voudrais vous passer ce message de Yann. Pour ceux qui se doutent de ce dont il s'agit, c'est évidemment le streaming de jeux vidéo et la technologie dont on parlait depuis des années et des années avec Yann. Et Yann disait qu'il était complètement certain que ça ne fonctionnerait pas du tout, que c'était juste pas possible. Et moi, je lui affirmais que ça pouvait fonctionner. Et au fur et à mesure qu'on a vu les expériences se tenter avec plus ou moins de succès, mais de plus en plus de succès, il était jamais convaincu et il avait une sorte certitude à laquelle il s'accrochait complètement que ça ne marcherait pas. Et bien, figurez-vous qu'il a commandé Stadia, sans doute pour me montrer à quel point ça ne marcherait pas, mais comme il est quelqu'un de juste et d'objectif, il s'est rendu compte que, eh ben oui, de fait, ça fonctionne. C'est pas idéal, c'est pas fait pour tout le monde, et c'est ce qu'il dit dans son message que je vais passer dans une seconde, mais ça fonctionne suffisamment pour contredire ses convictions profondes. Et il a donc tweeté un message il y a quelques jours que je vais encadrer, que je vais mettre sur des t-shirts que je vais vendre pour comme t-shirts spéciaux de l'émission. C'est une révélation, c'est 10 ans d'émission, ça a mené à ça pour moi. C'était quelque chose que j'attendais depuis tellement d'années et je dois applaudir Yann pour son honnêteté, dont je ne doutais pas, évidemment. Une fois qu'il a eu le truc entre les mains qui fonctionne, il a été suffisamment honnête pour le dire. Donc, merci à Yann. C'est un petit peu un chapitre qui se ferme pour le rendez-vous tech. Je suis sûr que je réinviterai Yann à un moment et on aura d'autres débats sur d'autres choses, mais sur celui-là, j'ai de la sueur qui perle sur le front rien que d'en parler, d'excitation, de joie. Voilà, Yann est d'accord sur le fait que le streaming de jeux vidéo peut fonctionner. Je vous laisse avec son message et on se retrouve après pour se dire au revoir.
Hello. Alors, les auditeurs de longue date du rendez-vous tech se souviendront sans doute des débats interminables qu'on a eus avec Jeff et Patrick sur le sujet du cloud gaming. Eux avec leur optimisme déconnecté de la réalité et puis moi bien entendu la voix de la raison et de l'humilité bien entendu. Eh bien ces deux derniers jours j'ai pu tester Stadia pour me forger ma propre opinion. J'ai reçu mon code alors que j'étais aux États-Unis pour un déplacement professionnel et que donc j'ai eu ce code pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel. Enfin, j'ai pu tester ça sur la chambre d'hôtel avec mon Pixel 3 et puis une manette Xbox que j'avais. Et donc, sur le Wi-Fi de l'hôtel, clairement, on s'entend que c'est pas les conditions optimales. Et puis, je dois bien avouer que l'heure est grave parce que j'ai pu jouer à Destiny 2 deux heures dans ces conditions et que force est de constater que ça fonctionne. Alors oui, il y a un léger lag, oui, il y a de la compression, mais bon, quand on est en déplacement comme ça, qu'on n'a pas de PC, qu'on n'a pas de console à disposition, écoutez, ça, comme on dit ici au Québec, là, ça fait la job, ça fonctionne assez bien, et j'étais le premier surpris. Alors, faut bien avouer que 10 ans après, la prophétie de Patrick et de Jeff semble se matérialiser. Enfin non, justement, mais bon, voilà. mais par contre, j'ai pu tester aussi sur un écran 4K et en ultra-wide. Et puis là, ça pique beaucoup plus les yeux, là, puisque on se rend beaucoup mieux compte des artefacts de compression et puis du signal en 1080p. Donc forcément, quand on met ça sur une surface plus grande, les défauts sont un peu plus visibles, mais finalement ça se rapproche un peu de ce qui se passe quand on connecte une Switch aujourd'hui sur un écran 4K, c'est pas la résolution native, donc ça bave également. Et donc c'est pour ça que je pense que même si pour quelqu'un comme moi qui va pas hésiter à mettre 1000$ sur une carte graphique pour jouer à des conditions optimales, je pense aussi qu'il y a clairement un public un autre type de profil quoi finalement qui se contenterait parfaitement de ce genre de compromis quoi finalement. Donc voilà, c'est un peu mon aveu hein, que ça fonctionne. Alors, bien entendu, là, je parle juste de l'aspect technique, le business plan, alors que ce soit Google, Microsoft, Amazon, Stadia, Nvidia, qui propose la meilleure offre, ça reste encore à déterminer. Mais d'un point de vue technique, en tout cas, ça semble fonctionner. Donc voilà, comme on dit souvent, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, bien vu Patrick et Jeff, vous gagnez cette bataille, mais je vous garde à l'œil. En attendant, je vous embrasse très très fort. J'embrasse aussi les auditeurs et les patriotes du Rendez-vous Tech. Et je vous dis à très bientôt.
Voilà, on envoie des bisous à Yann, des bisous et des hugs, parce qu'il nous manque dans son froid canadien et on pense à lui. Écoute, on arrive donc à la fin de cet épisode bien fourni quand même, Gaëlle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, comme d'habitude ?
Écoute, on peut me retrouver avec coude.fr, sur Facebook, sur coude, sur Twitter. Et mon Twitter perso, c'est @gmgirardeau. Voilà.
Super, et le Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Si vous voulez venir commenter notamment, vous pouvez le faire sur le site, sur tous les sujets qu'on a évoqués, ils ont été nombreux. Si vous êtes patriote, vous pouvez également venir commenter dans les commentaires de l'article. Et si vous êtes au niveau Slack, vous pouvez discuter de tout ça sur le Slack, évidemment. Et si vous n'êtes pas patriote, eh ben, vous pouvez penser à le devenir, puisque j'espère, comme je le disais tout à l'heure, que cette émission vous amène de l'information et de la bonne humeur en même temps. Le cercle vertueux, information, bonne humeur, information. J'espère qu'il a été respecté dans cet épisode. Si vous vous êtes marré un petit peu dans cet épisode, eh ben, pensez à faire un petit tour sur patreon.com/rdvtech pour voir si vous voulez devenir un soutien de l'émission. Ça prend une minute ou deux, montre en main, et ça aide énormément. Je vous fais de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.